France Culture.
J'ai écrit ma musique, je pense toujours au théâtre et au cinéma en même temps. Et je pense que c'est une musique très visuelle.
Now that it's time, now that the hour hand is landed at the end. Now that it's real, now that the dreams have given all they had to lend.
Tout ce qu'elle faisait s'inscrivait dans cette affirmation qu'elle était désormais une personne différente. C'était un rêve solitaire où se nouaient et s'abandonnaient des amitiés éphémères.
Wrap your troubles in dreams. Send them all away. Put them in a bottle. Across the seas they stay.
France Culture.
La série musicale. Zoé Sfez. Bonjour et bienvenue dans une émission toujours libre de tous les récits, de tous les mythes, de tous les portraits. Justement, contre les mythes parfois, une heure de radio sur la musique et en musique, c'est la série musicale. Bienvenue. Cette année, cela fera 60 ans qu'est sorti un album devenu mythique, The Velvet Underground, et Nico. Pour beaucoup, le souvenir est assez immédiat. Plusieurs garçons qui sont en train de fonder la musique moderne, et une belle blonde, tabourin à la main. Cette voix, féminine mais presque masculine, au timbre hiératique, posée sur le New York des années 60 sous l'œil d'un certain Andy Warhol qui produit le tout. Un album devenu l'emblème d'une époque saturée d'idéalisme, dont certains titres résonnent encore aujourd'hui, beaucoup dans les publicités, il faut le dire. Cette femme, c'est Nico. Elle est née Krista Pavgen, un nom qu'elle a toute sa vie refusé finalement de porter. Pour celles et ceux qui ont moins de 40 ans, elle est, on peut le dire, quasiment une inconnue. Pour les plus avertis, elle restera à jamais cette image fondatrice, la voix féminine du Velvet Underground et à peu près rien d'autre. Nico incarne la muse pop par excellence. Mais pour ceux qui l'ont suivie de plus près, elle est devenue un mythe. On connaît son histoire d'amour fugace avec Bob Dylan, puis avec Alain Delon, dont elle aura un fils, Harry, qu'il ne reconnaîtra jamais. Sa relation féconde avec le cinéaste hyper avant-garde à l'époque, Philippe Garrel, qui la filme et utilise ses compositions comme bande originale dans ses films. Et surtout, sans doute, plus que tout, son addiction à la drogue, sa immense fragilité, sa mort accidentelle et un peu mystérieuse à Ibiza en 1988. Nico, c'est à la fois tout cela et moins que cela, ou plus. Derrière les images, les récits et les légendes, il y a en fait une immense créatrice, l'une des compositrices, parolières et musiciennes les plus singulières du XXe siècle, longtemps dissimulée derrière ce statut de muse qu'elle n'a cessé de refuser, d'essayer de combattre, puis dépassée sans doute par celui, presque aussi encombrant, de mythe. Il y a eu des films documentaires, des fictions, des biographies, parfois assez remarquables, qui se sont souvent attachées, depuis sa mort, à faire d'elle un personnage, plus qu'une autrice de sa propre vie. 60 ans donc après l'apparition de cet album, deux occasions de revenir sur l'essentiel, c'est-à-dire la musique qu'elle a créée et qu'on peut le dire, certains d'entre nous ont aussi redécouvert en préparant cette émission. Il y a d'abord la publication d'un livre assez inclassable, de très bonne qualité, signé Clémentine Boulard, Nico, qui a peur d'être dans le noir. Ensuite, l'apparition d'une compilation monumentale de 10 CD de Sons rares, répétitions, concerts, Nico and Friends qui révèlent des trésors d'une beauté saisissante. Tout ça nous a donné l'élan de dresser aujourd'hui un portrait assez amoureux de Nico au-delà du velvet. Ni muse, ni mythe. Juste une excellente musicienne, une émission qui sera forcément subjective et ô combien non exhaustive dans la série musicale sur France Culture.
I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are, but if you don't, your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you.
I'll be a mirror, je serai ton miroir. Une des chansons mythiques de cet album mythique où Nico pose sa voix en plus de jouer du tambourin dans cet album The Velvet Underground et Nico, sur lequel on va largement revenir, mais qu'on n'entendra plus parce que c'est l'objet de cette émission, vous faire entendre Nico au-delà de ces chansons que vous connaissez parfaitement. On trouve ce titre extrêmement intéressant. L'idée de miroir est une idée qui hante finalement la vie et la musique de Nico, puisque tous ceux qui la verront, verront en elle ce qu'elle projette, celle d'une femme extrêmement belle. Belle, grande, longiligne, une statue de la liberté, dirait Andy Warhol, qui la repère et veut faire d'elle une superstar. Et pourtant, derrière, il y a Christa. Christa, qui est son être intérieur. Le miroir, elle l'utilise aussi comme métaphore pour évoquer ceux qui l'ont vraiment vu, notamment un certain Jim Morrison. Quand cet album sort, Nico est cette personnalité qui a été d'abord mannequin et qui est devenue chanteuse presque par hasard, alors qu'elle en avait en fait une immense envie. Écoutez-la ici, on est quelques mois après la sortie de cet album. Elle vient d'en sortir un autre Chelsea Girls, toujours produit par Andy Warhol, pour illustrer certains de ses projets. Elle n'écrit pas encore ses propres chansons, Nico, et pourtant on trouve que tout ce qu'elle fait déjà, ça n'est pas vraiment assez. Vous allez entendre dans cette archive, avoir un certain Patrick Blanc-Francard, immense journaliste de l'époque, l'interroge sur ce qu'elle fait. La misogynie très forte et ambiante dans laquelle cette femme a éclos en tant qu'artiste.
Ton premier disque, Chelsea Girl, on le trouve en importation dans certaines boutiques de disques à Paris et en France. Et puis on trouve bien sûr les disques avec le Velvet, le disque avec le Velvet. Et puis les deux autres disques que tu as fait par la suite. Mais à part ça, tu n'as rien enregistré d'autre. Est-ce que tu prépares un disque maintenant, en ce moment?
À part ça, j'ai enregistré rien d'autre.
Ouais.
Tu penses pas que ça suffit, déjà?
Ça pour... dépend.
Je peux très bien me retirer. J'aimerais bien jouer à l'opéra un jour.
My very violent time. Sweet comic violent time. You make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you small? For me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day.
My Funny Valentine, une interprétation issue de son tout dernier album, l'un de ses derniers vrais grands albums studio. My Funny Valentine, la reprise d'une chanson qu'elle écoutait beaucoup lorsqu'elle débarque jeune mannequin à Paris et qu'elle découvre dans les années 50 et les caves de Saint-Germain le timbre d'un autre être si fragile, incertain, Chet Baker. On avait envie de vous donner à entendre ces deux voix et l'espèce d'écart, les 20 ans qui séparent la jeune Nico qui chante avec le Velvet Underground de celle qui est devenue une femme mûre dans cette reprise où tant de choses se jouent. Car Nico est cette femme dont vous l'avez compris, hein, on a du mal à définir l'origine et le lieu. Nico est un pseudonyme, c'est l'un des tout premiers photographes allemands qui l'a fait travailler et qui la prend sous son aile, qui l'a baptisé comme ça. Elle déteste son prénom et elle déteste aussi son nom. Christa, qui veut dire, qui est une version féminine du Christ, est un prénom qui lui a été donné dans le cadre du couple assez étrange que formaient ses parents. Sa mère, très pauvre, protestante, son père, très riche, catholique, dans une Allemagne qui va très vite être embarquée par la guerre. Un père qui lui donne un nom, Pavgen, qui représente un clan qu'elle déteste. C'est aussi le nom d'une bière. Elle refusera toute sa vie de boire les bières qui portent son nom. Un père qui est à la fois un acteur de ce qui se passe en Allemagne à ce moment-là, mais une victime du nazisme, puisqu'il est engagé dans la Wehrmacht, est blessé. Il est assassiné par son commandant, qui le juge trop faible. Christa va grandir dans une Allemagne dévastée de l'après-guerre, avec une mère qui fait de la couture pour survivre, une mère déjà extrêmement belle, belle pommette. Et Lèvres charnues, une mère qui surtout, pour échapper au quotidien, l'emmène à l'opéra. Écoutez, Christa Nico nous racontait ce qu'elle a aimé. C'est une belle porte d'entrée pour comprendre tout ce qu'elle tentera de devenir plus tard. Moi, j'ai grandi d'abord et avant tout avec l'opéra. Ma mère m'emmenait à l'opéra à Cologne. Je crois que ça s'est inscrit à jamais dans mon esprit, dans mon cerveau. Et le rock, votre tout premier titre, c'était avec Jimmy Page. Oui, mais moi, j'ai toujours préféré le jazz. En tant qu'ado, c'est ça que j'ai aimé, le jazz. Et puis après, j'ai rencontré Bob Dylan. Il a changé l'idée que j'avais qu'il fallait absolument que je chante des chansons d'amour. Des chansons de filles, quoi. But how lonely can you search for what's not lost? Everybody will help you. Some people are very kind, but if all un Keep It With Mine, une petite répétition de Nico et Lou Reed, dans des petites pépites que l'on peut retrouver dans cette compilation parue chez Greystack, Nico and Friends 10 CD, avec notamment ce premier disque qui comporte toute une foule de répétitions, mais de très longues conversations entre Nico et les gens avec qui elle collabore. Lou Reed, mais aussi évidemment John Cale, deux de ses camarades du Velvet. I'll Keep It With Mine, c'est une chanson très importante, une chanson écrite, peut-être pour elle, en tout cas pas loin d'elle, par un certain Bob Dylan. Christa, qui naît à Cologne, dans cette famille très pauvre, veut devenir ballerine et chanteuse. C'est compliqué, d'une part parce qu'elle a eu une pneumonie qui fait qu'elle aura toute sa vie des poumons très fragiles, mais elle se fait remarquer pour sa taille extrêmement imposante. Dès l'âge de 15 ans, elle est repérée, devient mannequin, arrive à Paris. On l'a baptisée Nico. Nico, c'est le nom d'un homme, Nikos Papadakis, qui avait été le producteur du seul et unique film de Jean Genet. Un homme mort trop jeune, qui était l'amant, le grand amour de ce photographe, Tobias, qui l'avait repéré. Elle hérite donc d'un pseudonyme. C'est un pseudonyme masculin. Et ça, ça lui plaira toute sa vie. Elle qui dit que son seul regret, c'est d'être née femme. Dans ce Paris bouillonnant des années 60, elle tente déjà, alors qu'elle est mannequin et qu'elle commence à jouer au cinéma, notamment dans un certain film de Fellini, La Dolce Vita, où elle apparaît dans ces scènes de fêtes complètement folles à Rome, perclus de personnages un peu absurdes. Déjà, sa beauté, son étrangeté, sa bizarrerie, sa voix très masculine sont exploitées par Fellini. Elle a ce rêve secret de chanter. Elle va d'ailleurs enregistrer des premières chansons qui sont toutes, on peut le dire, relativement kitsch. Un premier titre, I'm Not Saying and The Last Smile, qui, clairement, dans les paroles, je ne dis pas que je t'aime, je ne dis pas que ça va m'importer si tu m'aimes, je ne dis pas que je m'en soucierai, je ne dis pas que je serai là quand tu voudras de moi, sont des paroles, justement, qui, plus tard, lui feront honte. Sa rencontre avec Bob Dylan, qui tombe assez amoureux d'elle, va sans doute beaucoup changer les choses, puisque, faisant fi de la misogynie ambiance, comme elle le racontait, il dit à cette jeune femme très belle, mannequin, qu'elle peut chanter autre chose que des chansons guimauves et des chansons d'amour. Dans ce premier album, après le Velvet, Chelsea Girl, où elle interprète des chansons écrites par d'autres, elle va jouer cette fameuse chanson écrite pour elle par Bob Dylan, I'll Keep It With Mine, I Can't Help It If You Might Think I'm Odd, If I say I'm not loving you for what you are, but for what you're not, je n'y peux rien si tu penses que je suis bizarre de dire que je ne t'aime pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu n'es pas. Car Bob Dylan, dans sa grande franchise, sans doute n'a jamais su cacher, même dans les paroles qu'il lui a écrites, combien il était fasciné sans doute plus par ce qu'elle représentait que parce qu'elle était vraiment un problème qui la suivra toute sa vie.
For what's not lost, everybody will help you. Some people are very kind, but if I can save you any time. Come on, give it to me. I keep it with mine. I can't help it if you might think I'm odd. If I say I'm not loving you for what you are, but for what you're not. Everybody will help you discover what you set out to find. But if
with mine. Nico et les arrangements magnifiques, pop orchestral. Dans cet album, son premier album solo, Chelsea Girl, pour comprendre comment elle en est arrivée là, en 67, il faut un peu remonter le fil. On a laissé Nico après sa rencontre avec Bob Dylan. Elle a déjà donc enregistré un premier, une foule de sons qu'elle n'aime pas beaucoup. Mais elle est très vite repérée par un homme qui a le sens de l'art, mais surtout le sens de la publicité. Il s'appelle Andy Warhol et accompagné de Paul Morisset, réalisateur. Il réalise des films expérimentaux, dont Chelsea Girls. Il a repéré cette jeune femme qui a été élue Pop Girl 1966 et qui a signé un contrat avec Ford à New York. C'est la silhouette qui explose. Warhol va tomber amoureux de la créature Nico et l'embarquer dans toute une série d'expériences. Il va d'abord la faire jouer dans des films, mais pas uniquement ça. La relation entre Andy Warhol et Nico reste encore aujourd'hui une forme de mystère. À la fois, c'est lui qui la voit, qui aime des choses que peu de gens aiment à l'époque. C'est très long silence que vous entendez dans ces interviews, et ils seront de plus en plus longs à mesure que sa vie progresse. Il aime aussi son accent allemand, à une époque où il n'est pas très bon être germanique. D'ailleurs, Nico se faisait passer pour albanaise quand elle était dans ses premiers contrats à Paris, le pays qui sortait de cette très longue guerre avec son propre pays. Il décide d'en faire une superstar. Il la façonne et surtout, il va l'imposer à un groupe de jeunes musiciens qui a toqué à la porte de Morisset et Andy Warhol et de leur lieu, leur maison de production, The Factory. Ce sont quatre jeunes musiciens qui avaient une résidence dans ce qu'on appelait le Café Bizarre à New York. Des lettres dégoulinantes où ces messieurs expérimentaient une musique tout à fait nouvelle. Ils s'appellent Lou Reed et John Cale, mais pas que. Lou Reed, Andy Warhol est intéressé par sa musique, mais considère qu'il n'est absolument pas assez charismatique. Cela fait déjà plusieurs mois qu'il produit des essais différents, essaye d'insérer d'autres musiciens. Il accepte de produire le Velvet et un album si ils prennent cette certaine Nico qui a envie de faire de la chanson, qu'ils la font chanter et qu'ils la mettent au tambourin. Une espèce d'imposition par le financeur de l'époque qui est évidemment très mal vécu par les musiciens eux-mêmes. C'est sans doute pour ça que l'expérience du Velvet Underground est le fait qu'on la renvoie toute sa vie à ce rôle finalement de femme presque décorative, la rendra toute sa vie triste. Écoutez celui qui ensuite deviendra son très grand ami, John Cale, raconter comment ça a été perçu à l'époque. L'idée qu'Andy voulait qu'elle soit dans le groupe était vraiment extrêmement violente, particulièrement pour moi et pour Lou Reed. On était déjà passé par plusieurs variations en termes de dispositifs pour le Velvet. Et on venait d'engager Maureen, une fille à la batterie. On avait l'impression qu'on avait résolu la question d'une présence féminine dans le groupe. Mais Andy était très fort en pub, en fait. Et il savait très bien que la présence d'une très belle blonde au tambourin ferait beaucoup. Mais nous, on comprenait absolument pas pourquoi il fallait qu'on ait cette fille sur scène avec nous.
Here's room 546. It's enough to make you sick. Bridget's all wrapped up in foil. You wonder if she can uncoil. Here they come now. See them run now. Here they come now, Chelsea girls. Here's room 115, filled with S&M queens. Magic Margaro, you wonder just how high they go. Come now, see them run now. Here they come now, Chelsea girls. Here's Pope, dear Undine. Ron has treated him so mean. She wants another scene. She wants to be a human being. Here they come now. See them run now. Here they come now. Chelsea. She's having fun. She thinks she's some man's son. Her perfect loves don't last. Her future died in someone's past. Here they come now. See them run now. Found her lick. She's turned another.
another trick. Her treats and times revolve, she's got problems to be solved. Here they come now, see them run now.
Here They Come Now, Chelsea Girls. Un album, une chanson magnifique qui va donner son nom au premier album solo de Nico. Un album que, paradoxalement, elle n'aime pas. En réalité, le Velvet a été une souffrance quasi totale. Le problème, c'est la relation avec Lou Reed. Lou Reed, c'est sans doute un miroir. En fait, on se ressemble trop. Nos deux égos surdimensionnés vont rapidement se cogner l'un à l'autre. Moi, je veux devenir Nico et lui veut devenir Lou Reed. Et ça ne fait pas de bonnes chansons. Ça donne lieu en studio et sur l'oreiller, puisqu'il y a évidemment une histoire d'amour à des clashs violents. Et la chose difficile, c'est ce qu'écrit Clémentine Boulard dans son livre « Nico qui a peur du noir », c'est que Andy Warhol a signé le Velvet à condition que Nico soit présenté comme le personnage principal. Toutes les séances photos de promotion de l'album la mettent, elle, en vedette. On la reprend en photo jusqu'à l'épuisement. Et en studio, on ne cesse de la critiquer. Les reproches sur ma voix, trop dramatique, trop juste, trop grave, pas juste. Les moqueries parce que moi, l'allemande, j'ai du mal à chanter dans une langue qui n'est pas la mienne. Nico va en fait quitter le Velvet avant même la sortie de ce disque avec cette pochette mythique qui représente une banane. Elle va se perdre et rencontrer plusieurs personnes, avoir plusieurs histoires d'amour complètement fondamentales. D'abord, après avoir quitté le Velvet, elle rencontre un certain Leonard Cohen. Il tombe fou amoureux d'elle. Il a 33 ans, l'âge du Christ, et il y voit un signe, puisqu'elle s'appelle Christa. La rencontre avec cet homme va beaucoup la décider, mais il y a une autre rencontre, bien plus importante, celle d'un certain Jim Morrison, dans lequel elle se voit comme un miroir. C'est lui qui va la pousser à écrire ses propres chansons et à trouver son propre instrument, un instrument qui serait elle, qu'elle pourrait, avec lequel elle pourrait expérimenter seule, en dehors de tout, c'est l'harmonium. Mais entre-temps, elle a signé avec toujours la Factory. Warhol a décidé de lui faire sortir son album solo. C'est ce fameux Chelsea Girl, un album sublime de pop orchestral, mais, dira-t-elle, c'était l'album de Paul Morrissey et de Lou Reed. Elle y chante des chansons de Bob Dylan, composées par Lou Reed, par d'autres. Mais à la sortie, elle pleure. Ça n'est pas moi dans cet album. Même la fille sur la pochette, cette blonde trop sage, n'a rien à voir avec moi. Du Velvet, elle va garder une collaboration, un collaborateur. Il s'appelle John Cale. C'est celui que vous avez entendu à l'instant nous raconter combien tous les membres du Velvet avaient subi sa présence. Et pourtant, il se passe quelque chose avec lui. Je ne sais pas pourquoi je l'aimais. Peut-être parce qu'on parle la même langue, peut-être parce qu'il est gallois et que finalement on a les mêmes références européennes. Il est imprégné d'influences celtiques et on puise énormément dans le folklore. On a en commun tout un fond de mythes et de légendes qui s'est déposé en nous et se réincarne dans nos chansons. Aussi bien dans les arrangements de John Cale que dans mes paroles. Grâce à l'injonction de notre ami Jim Morrison, Nico va enfin composer son propre album. Encore une piste à découvrir de répétition avec John Cale. Une piste à découvrir. On entend les répétitions et la manière dont, la grande douceur aussi, dont ces deux personnes travaillent. C'est avec John Cale que Nico va enregistrer son vrai premier album. Il s'appelle The Marble Index. The Marble Index of a Mind Forever Voyaging Through Strange Seas of Thought Alone. Ce sont des vers du poète Woodworth. Alors qu'elle est en pleine réinvention, Nico lit énormément Coleridge, Byron, Shelley, Lord Tennyson, Elle croit, c'est ce qu'écrit Clémentine Boulard dans son livre, « Je crois que Tennyson est le meilleur de tous. Ils ont donné leur vie à l'art. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau. Les gens pensent toujours que je ne lis pas, que je ne suis qu'une apparence, que je me promène avec des livres pour faire chic. Jamais un journaliste ne m'a interrogé une seule fois sur ce que je lis. Or, je lis beaucoup. Les poètes anglais, mais pas seulement. Rimbaud et Nietzsche. The Marble Index est un album où, grâce à l'injonction de Jim Morrison, elle va mettre en musique des textes qu'elle a écrits. Il ne s'écoute pas, ce disque. C'est un gouffre dans lequel on tombe, dira-t-on autour de moi, et autour, au bout duquel il n'y a ni rien, ni personne. No one is there, c'est l'une des chansons phares de ce titre. Écoutez John Cale sur ce qui se joue à ce moment-là dans la vie de Nico. Tout ce qu'elle faisait après Chelsea Girls, c'était une manière d'affirmer cette déclaration qu'elle n'était plus, elle ne voulait plus être celle qu'on lui avait demandé d'être. C'était un voyage très solitaire. Elle créait des amitiés temporaires, ensuite les abandonnait. Elle était dans cette espèce de transition émotionnelle. C'est comme si elle essayait de meubler une vie nouvelle ou créer du vide. C'était tellement personnel. C'était si puissant de voir cette femme naître. Je pense que c'est ma plus grande contribution à la musique moderne européenne. De toutes les choses que j'ai vécues avec le Velvet, toute cette aventure tourmentée, je pense clairement que les choses les plus importantes que j'ai faites, c'était précisément à ce moment-là, avec Nico.
From behind my window screen, evening is dancing down the scene. In a cruise ship parody, evening is dancing down the scene. He is calling and throwing songs up in the air, and no one is there. All of them are missing as the game comes to a start. No one is there. Some are calling, some are sad, some are calling mad. No one is there across from behind your window screen. Eam is dancing down the scene in a crucial parody. Dancing down the scene, he is calling and throwing his arms up in the air. No one is there. Missing as the game comes to a start. No one is there, and no sound has them.
Thank you. Lequel de vos albums vous aimez le plus? Moi, c'est clairement Marble Index, parce qu'on l'a enregistré en 2 jours à peine. Et on avait un budget de $200. C'était fou, hein? Jankel ne s'en rappelle pas. J'ai l'impression qu'il a la mémoire courte, mais on n'avait vraiment rien. On a eu 2 jours dans un minuscule studio, tout petit, le plus petit. Et lui, il avait, pour aller jouer les basses, il était obligé d'aller dans la salle des ingénieurs. That is my own. Loans of Down, c'est l'un des plus beaux titres de cet album Marble Index qu'on aurait pu vous jouer en entier. Vous entendez l'avant-garde, vous entendez les silences. Cette chanson et cet album sont une véritable renaissance. C'est aussi pour nous l'un des plus intéressants, Nico. Les silences sont là. Une chanson aussi très importante qu'on ne pourra pas vous passer, mais qu'elle jouera sur scène toute sa vie. Elle qui dit qu'elle adore cet album parce qu'elle l'a enregistré en 2 jours et qu'elle déteste le studio, que ça n'est qu'en live, qu'elle est vraiment heureuse. Et d'ailleurs, l'un des vrais apports de cette collection Nico and Friends, c'est de comprendre qu'entre la répétition et le studio, il n'y avait pas tant de différence. Nico donne à chaque fois tout, sa voix, mais aussi ses silences. L'un des très beaux titres de cet album s'appelle « Frozen Wings ». Et c'est une chanson dans laquelle elle chante « Frère ermite qui se heurte à la frontière voilée, sommation figée à ma proximité, à proximité de la frontière figée, sommation figée en boucle, à proximité de la frontière gelée », une évocation poétique de la présence, évidemment, des trains de déportés qu'elle voit défiler chaque jour pendant toute son enfance. Dans ses albums, plusieurs des grandes douleurs de Nico vont surgir, mais il lui arrive bien des choses dans ses années 60 et 70, enfin entre la fin des années 60 et le début des années 70. Une histoire d'amour avec Iggy Pop, elle aura rencontré à peu près tous les gens les plus intéressants de sa génération, mais surtout une rencontre fondamentale, la rencontre du réalisateur français Philippe Garrel. Elle continuait sa relation avec Andy Warhol, relation qu'elle regardera beaucoup plus violemment à la fin des années 70. Elle l'accusera même d'être un violeur au sens moral du terme. Andy Warhol qui vient de subir une tentative d'assassinat. Et c'est cette rencontre avec Philippe Garrel qui va, contrairement à Warhol, évidemment voir en elle une héroïne, une muse, mais écrire, comme elle dira, à 3 mains. Il y avait la muse, Philippe, mais aussi moi. Toute une série de films qu'ils vont faire ensemble, qu'ils travaillent. Elle dit que c'est une écriture à 4 mains. Le sommet de cette communion, c'est un film, La cicatrice intérieure, un hymne aux 4 éléments, composé par E3, Philippe derrière la caméra et moi derrière les monologues et la bande-son. On est en fusion totale, avec aussi son fils, le fameux Harry Boulogne, un fils qu'elle a eu en 62, après une histoire très courte avec un certain Alain Delon, qui à l'époque est fiancé avec Romy Schneider. Il refusera toute sa vie de reconnaître ce fils, d'avoir la moindre relation avec lui. Et pourtant, c'est bien les parents d'Alain Delon, le couple Boulogne, qui élève cet enfant. On le voit apparaître, Harry, dans ce film. Elle est en robe de mariée, sur un cheval blanc, et ce cheval, il est tiré par Harry, son petit chevalier.
I would have liked to have gone to the,
Moi, j'aurais aimé toute ma vie
Amazon River.
Composer des films au bord d'une rivière, par exemple au bord de l'Amazon. Être là, avec les tambours, tout qui serait autour de moi. Je sais pas, je m'imagine quelque chose comme Fitzcarraldo, par exemple. En fait, moi, j'ai toujours besoin de voir une chanson. Il faut que je voie un film dans ma tête. Si je ne vois pas un film, je crois que je ne peux pas écrire la chanson. Je vois la chanson plutôt que je ne l'entends.
Je suis le petit chevalier avec le ciel dessus mes yeux. Je ne peux pas me effrayer. Je suis le petit chevalier avec la terre dessous mes pieds. J'irai te visiter.
All That Is My Own, extrait du deuxième album de Nico en collaboration avec John Cale, qui est en fait justement toute une espèce de collection de ces sons construits pour le film La cicatrice intérieure. film sublime, mais en même temps compliqué, puisque Nico est dans cette relation difficile avec son fils qu'elle peut rarement voir, manque cruellement du fait que cet enfant n'a pas de relation avec son propre père, toute une série de chansons sur cette question, The Only Child et All That Is My Own, tout ce qui est à moi, qui sont présents dans cet album, album qui sera suivi par un autre extrêmement important, marqué par entre-temps la disparition de celui qu'elle considérait comme son âme sœur, celui qui avait rendu possible pour elle le fait d'écrire et d'avoir son propre instrument, Jim Morrison.
Yes, he was my soul brother.
Il était mon frère
d'âme.
On était âme sœur. C'est lui qui m'a dit d'écrire. Moi, j'étais incapable d'écrire des chansons. C'est ce que je pensais à l'époque. J'aimais les choses, vous savez, extrêmement légères, étant une fille qui venait de la mode. Je ne cherchais pas à créer mon propre système. Mais en tout cas, l'écriture de Jim compte. Oui, en tout cas, il m'a énormément inspiré. C'était comme regarder dans un miroir et m'y trouver quand j'étais avec lui.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end. Of everything that stands, the end. No safety, no surprise, the end. I'll never look into your eye again. Can you picture what will be? So limitless and free. Desperately in need of some stranger's hand. In a desperate land, lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane.
The End, chanson mythique de Jim Morrison, interprétée sur scène par Nico lors d'un concert mythique en 1974 avec notamment Brian Eno, John Cale, bien d'autres sur scène. The End, c'est le nom de son troisième album, un album profondément marqué par la mort de Morrison et dans lequel elle fait face à ses démons. Une magnifique chanson consacrée à sa mère qui a disparu entre-temps. Et un sublime morceau qu'on ne pourra pas vous passer, You Forget to Answer, tu as oublié de répondre, qui s'adresse à Jim Morrison, qu'elle tentait de joindre par téléphone alors qu'il était déjà mort. La fin des années 70 va être à la fois fertile, parce qu'il y aura toujours cette collaboration, cette amitié, cet amour avec Philippe Garrel, mais au mi-temps des années 80, un changement évidemment à la fois de décor et de musique pour une Nico qui revient avec un album qu'elle fait pour la première fois sans John Cale. John Cale qui, dit-elle, était devenu presque trop invasif dans sa manière de faire de la musique. Depuis Margaret Dex, j'avais l'impression qu'il se sentait responsable de moi. John Cale qui essaie sans doute de l'aborder, car l'addiction à l'héroïne se fait de plus en plus forte. Écoutez-la ici nous dire justement la manière dont elle envisageait les années 80, celles qui la verront mourir vers la fin de la décennie.
Just gives me the idea that I haven't,
moi, j'ai l'impression
that I'm still living in the
1960s, que je vis toujours dans les années 60. D'ailleurs, on me parle tout le temps du Velvet.
I don't think so, since people accept your new...
Mais je ne crois pas, les gens acceptent vos nouvelles chansons. Mais non, moi j'ai l'impression que les années 80, c'est tout simplement une extension des années 60. Il y a toujours le même désespoir qui est revenu. Mais il n'était pas là dans les années 70, ce désespoir. J'ai l'impression de revivre la même chose. Et les années 70 ont été un pont, mais brisé. One More Chance, extrait de l'album du début de la décennie, les années 80, Drama of Exile, le drame de l'exil, ce qui sera suivi par un sublime et dernier album, Camera Obscura, album de plus en plus expérimental dont était issu ce fameux reprise de My Funny Valentine avec lequel nous avons ouvert cette émission. Redécouvrez Nico, on vous le demande. Merci beaucoup à Théa Corlaire qui a préparé cette émission, à Laura Dutèche-Pérèche qui en assure la page internet et qui est là aujourd'hui. Merci à Ludovic Auger qui était au platine et bien sûr à Thomas Jost, le réalisateur de la série musicale. On vous invite à redécouvrir Nico, mais aussi à vous abonner au podcast de la série musicale sur l'appli Radio France. À la semaine prochaine.